Donc, c'est pas un scoop, on est très proche de Noël, hein, vous l'avez remarqué, je pense, comme moi. Et en fait, je ne vais pas prendre les textes de Noël, puisqu'on est encore, on attend un petit peu, mais je vais quand même parler de Noël. Et en fait, si j'avais un titre à donner à mon message, ça serait « Comment vivre Noël ?» Parce qu'il y a plusieurs façons de voir Noël, de le voir, de le comprendre, de le vivre. Alors, j'ai un petit peu fait le tour déjà des traditions et tout ça, c'est un petit peu le but. Il y a déjà des religions qui ne fêtent pas Noël. Nous avons un exemple que l'on connaît bien, les témoins de Jéhovah. Pour eux, Jésus, c'est l'archange Michel, donc c'est inférieur à Dieu, j'ai lu un commentaire, c'est un dieu avec un petit dé. Il y a les adventistes. Alors pour eux, il n'est pas ordonné dans les Écritures de faire la fête de Noël. Ce qui est vrai, il n'est pas dit vraiment, fêtez, rassemblez-vous, faites la fête. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Après, il y a les musulmans. Alors eux, ils ont beaucoup d'estime pour Jésus, ils aiment Jésus. Mais comme ils considèrent Jésus comme le plus grand des prophètes, un des plus grands prophètes de l'islam, mais pas du tout comme le fils de Dieu, ni mort, ni etc. Les bouddhistes, j'ai mis un point d'exclamation, donc je n'ai pas voulu fouiller, mais ils ne fêtent pas Noël. Et après, alors on parlait tout à l'heure des textes qui sont dans Isaïe, et malheureusement, il y a une grande partie des juifs qui n'ont pas encore reconnu Jésus comme Messie. Pour eux, le Messie n'est toujours pas venu, et ils l'attendent toujours. Donc voilà, ils en sont encore là. Et après, c'est là que ça devient pas polémique, mais plus intéressant. Il y a ceux qui n'approuvent pas les traditions du temps de Noël, donc que ça agace, et qui pensent que cela dénature complètement Noël, cette fête de Noël. Alors j'ai pris quelques exemples, et après je vais développer, j'espère qu'il n'y aura pas trop de polémiques, mais j'ai bien refouillé sur Internet. Alors par exemple, donc on va prendre une liste. Bon, le sapin de Noël, il n'y en a que ça dérange. Les décorations avec toutes ces lumières, donc toutes les illuminations qu'on a dans nos rues, dans nos villages, sur notre sapin, avec, à l'époque c'était des bougies, maintenant c'est des belles guirlandes. Tout à l'heure on a entendu un enfant qui a répondu les cadeaux. Les marchés de Noël, on en a parlé. Et bien sûr le fameux Père Noël. Alors pourquoi finalement faire cette fête de Noël? Donc je suis un petit peu revenu à l'origine de Noël. Alors s'il y en a, avec un petit sourire, qui vous disent « c'est bien une fête païenne », c'est vrai, au départ, Noël est une fête païenne, que ça nous dérange ou pas. C'est en fait une fête païenne, mais c'était avant la période chrétienne de l'Europe, que l'Europe a connue. La période du 25 décembre a d'abord été associée au culte de Mithra. Alors le culte de Mithra, je ne vais pas faire un cours, le culte de Mithra est un culte à mystère, dédié à Mithra, jusque-là c'est logique, divinité originaire du monde iranien. Le culte s'est épanoui après dans l'Empire romain, donc on voit chaque fois l'évolution des choses. Hein. Dans l'Empire romain, entre la fin du 1er siècle et la fin du 4e siècle, ils faisaient le culte à Mithra, qui signifie contrat. Donc il y avait déjà l'idée d'une alliance, ce Mithra aurait fait une alliance sur la création aussi, pour la création. Il y avait déjà des choses comme ça derrière. Bien sûr, quand le christianisme est apparu, alors c'est devenu la célébration de la naissance de Jésus. Le sapin. Alors le sapin, c'est un peu la même chose. Dans l'Antiquité, nombreuses sont alors les fêtes qui utilisent des branches d'arbres verts, donc du sapin. Et ils y donnaient déjà le symbole de la vie éternelle. Alors, on ne sait pas comment, mais il y en a qui croyaient déjà à la vie éternelle. Les Celtes, qui marquaient le solstice d'hiver avec le sapin, vénéré pour sa résistance au froid. Alors toujours, les Romains honoraient leurs fenêtres, décoraient ou ornaient leurs fenêtres avec des branches de sapin, toujours vertes, pour honorer le dieu Janus, qui est bicéphale. Donc il avait deux têtes, leur dieu. J'ai trouvé ça très original, une tête tournée vers le passé et l'autre vers l'avenir. Ce n'était pas bête comme définition. Et là, aussi, avec l'arrivée du christianisme, il y a une autre signification, bien sûr. Donc je reviens un petit peu sur chacun de ces sujets. Au XIe siècle, l'arbre de Noël, garni de pommes rouges, symbolisait l'arbre du paradis, du bien et du mal. Alors dans d'autres pays, pas encore chez nous. Et c'est au XIIe siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, et j'espère que vous savez où. Voilà, merci. C'est effectivement au XIIe siècle, plus précisément en Alsace, que l'on mentionne pour la première fois comme arbre de Noël en 1521 en Alsace, l'usage se développe, surtout chez les protestants à l'époque de la Réforme. Donc c'est vrai que les Alsaciens peuvent être fiers. Le sapin de Noël, c'est devenu, c'est par eux que ça s'est répandu. Alors bien sûr, il n'y a pas de référence biblique sur cet arbre de Noël, mais on peut y voir plusieurs symboles. Donc je l'ai dit déjà à l'époque, sur ces branches vertes, certains voyaient la vie éternelle. Donc nous, on pourrait y voir la vie éternelle offerte par la mort de Jésus sur le bois du sapin aussi. Sur ces poutres dénudées qui ont offert le pardon universel, c'est ce qu'on vient de célébrer aussi. On peut aussi y voir la couronne d'épines sur la tête de Jésus à la croix. Et toutes ces lumières qui scintillent sont un témoignage de sa gloire dans le monde. Le bois de la croix est un témoignage. Oui, pardon, je l'ai dit. Le bois de la croix est un témoignage de sa gloire dans le monde. Le bois de la croix ne devait pas être un bois de qualité, on suppose. Ça, c'est aussi des suppositions qu'on peut lire dans des commentaires. Et pourtant, c'est la vie éternelle qui a été offerte. Alors, je vais vous lire une petite réflexion sur un bois de peu de qualité et qui a donné des surprises. Alors, pour ceux qui peut-être certains l'ont déjà lu. Le luthier italien Antonio Stradivari était pauvre. Et pourtant, ses instruments sont aujourd'hui les violons les plus prestigieux jamais fabriqués en raison de leur sonorité inimitable. Le son unique d'un Stradivarius ne peut être reproduit. Ce qui peut surprendre, c'est que ces précieux instruments n'ont pas été fabriqués à partir de bois précieux. Ils ont été sculptés dans du bois destiné au rebut. Comme Stradivari n'avait pas les moyens d'acheter des matériaux de qualité, il obtenait la plupart de son bois dans des ports insalubres où il vivait. Il apportait ses bouts de bois gorgés d'eau à son atelier, les nettoyait et les faisait sécher. Puis, à partir de ces déchets, il créait des instruments d'une rare beauté. On a depuis découvert que le bois qui flottait dans une eau croupie était envahi de microbes qui rongeaient le centre de ses cellules. Il ne subsistait qu'une infrastructure fibreuse qui allait créer des chambres de résonance idéales pour la musique. À partir de bois dont personne ne voulait, Stradivari a produit des violons désormais les plus convoités au monde. Vous dites, quel rapport avec moi ? C'est le commentaire je continue le texte. Tout comme ce luthier a transformé les déchets en trésors, Dieu peut vous transformer aussi. Vous dites, mais j'ai un passé si lourd, je doute que Jésus puisse sauver et transformer quelqu'un comme moi. Essayez-le, mettez-le à l'épreuve, vous ne serez pas déçus. La Bible dit, donc c'est dans Hébreux 7, 25, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Donc voilà déjà aussi, on voit avec ce bois qui valait rien ce que ça a tout donné. Petite information, pour les instruments, normalement, pour le bois les plus utilisés, c'est l'épicéa et l'érable. Et Antonio Stradivari est encore le plus célèbre des luthiers. Il est décédé le 18 décembre 1737. Donc on approche de son anniversaire du décès, en fait. Alors, petite révision sur le Père Noël. Oui, alors là, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une petite blague que j'ai lue hier. C'est une famille... Trois enfants, papa et maman, ils sont devant le sapin de Noël. Et puis, il y a le Père Noël qui passe, qui est habillé, et qui demande aux enfants s'ils ont été sages. Oui, oui, oui. Et puis, il leur dit, et qui c'est qui obéit le plus à maman? Et les trois enfants, en même temps, ils ont répondu, papa. Voilà. C'est tout. Je n'en dirai pas plus, parenthèse, je referme. Donc, le Père Noël. Alors, il est vrai qu'à l'origine, c'est Saint Nicolas, qui était un saint chrétien, mais, disons, il a été mis en valeur au IVe siècle. Il était évêque de Myre, une ville d'Asie mineure, en Turquie donc. Et Saint Nicolas a été représenté à partir du IVe siècle en rouge et blanc, déjà. Il est né en fait en 270 après Jésus-Christ et il est mort en 343 après Jésus-Christ. Donc on voit qu'il a fallu du temps pour qu'il soit honoré. En 1821, un pasteur américain, Clément Clark Moore, publie un conte de Noël, La nuit de Noël, dans lequel Saint Nicolas est présenté, ça commence là à changer, comme un lutin sympathique qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace en traîneau tiré par des rennes. Donc on voit toute l'évolution, à nouveau, le changement. Alors petit à petit, on va dire que Saint-Nicolas continue d'exister, mais devient le Père Noël tout doucement. Alors si vous regardez, il est passé de toutes les couleurs, le Père Noël jaune, enfin tout ce que vous voulez. Dans les pays scandinaves, le Père Noël est habillé de vert, comme Saint-Nicolas, parce que pour eux, c'est le lien avec la forêt, l'hiver. Donc eux, ils ont mis du vert. Après, je vous fais grâce de toutes les dates, entre 1821 et 1855, ce Père Noël évolue. Et là, il y a un petit peu une légende qui n'est pas tout à fait juste, qui dit que c'est Coca-Cola qui a créé le Père Noël. C'est faux, rassurez-vous. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un designer de chez eux, un dessinateur, Adon Sundblok, qui, lui, avait dessiné une publicité du Père Noël en train de boire du Coca pour retrouver le punch pour pouvoir livrer les cadeaux. Donc, à partir de là, et c'est lui qui a fait le Père Noël tout rouge avec une grande barbe blanche. Donc, effectivement, c'est là il a joué son rôle, sur l'image du Père Noël. Donc, bien sûr, vous le savez, dans la Bible, nous n'avons pas de référence sur le Père Noël. Pour nous, et je pense que pour beaucoup de monde, on sait qu'il n'existe pas. Mais nous avons entendu tout à l'heure le mot cadeau. Et oui, il y a aussi ces cadeaux. Il y a une signification avec ces cadeaux. Parce qu'il nous est dit dans la parole qu'il y a des mages qui sont allés voir Jésus, qui ont été guidés par l'étoile, et ils sont venus offrir des cadeaux au roi des rois, qui était Jésus. Alors, en fait, là aussi, pour le plaisir, je vais vous dire une petite histoire, une petite anecdote sur le cadeau, qui se dit que c'est nomme le plus beau cadeau. Un jour de décembre, Peter Richardson aperçoit une petite fille devant la vitrine de son magasin d'antiquité. Elle entre dans la boutique et demande à voir un collier de perles bleues. Quand Peter le pose sur le comptoir, elle dit « S'il vous plaît, vous pouvez me l'emballer, c'est pour ma sœur. C'est elle qui s'occupe de moi maintenant. C'est notre premier Noël sans maman et je cherche le cadeau idéal. » Peter lui demande « Tu as de l'argent ?» Alors elle dépose un petit tas de pièces sur le comptoir. « J'ai vidé ma tirelire. » Peter prend le collier, en cache le vrai prix et l'emballe. Il lui demande son nom. Elle répond « Jeanne Grasse ». Peter lui tend le joli paquet. La petite fille le remercie et s'en va. La veille de Noël, alors qu'il s'apprête à fermer sa boutique, une jeune femme se précipite dans le magasin, lui tend un paquet familier et demande « Vous vous souvenez à qui vous l'avez vendu ?» Le commerçant lui explique « À une petite fille appelée Jeanne, qu'il a achetée pour sa grande sœur. » La jeune femme lui demande alors le prix du collier. Peter lui répond « Le prix ne regarde que le vendeur et son client. » Elle s'inquiète, mais avec quoi a-t-elle bien pu payer ? Après avoir soigneusement remballé le cadeau, Peter le lui rend et dit « Elle a payé le plus grand prix qu'on puisse payer, car elle a donné tout ce qu'elle avait. » Lorsque Dieu a envoyé son Fils pour nous racheter, il a donné tout ce qu'il avait. Paul le proclame dans 2 Corinthiens 9,15 « Loué soit Dieu pour son don incomparable. » J'ai trouvé que c'était une petite histoire qui illustrait bien. Elle a tout donné, il n'y avait pas de prix. Et j'ai bien omis cette réflexion aussi que le vendeur n'a pas à dire le prix. C'est entre lui et sa cliente. Donc pour revenir aux mages, donc c'est des païens complètement étrangers venus d'un pays lointain. Ils sont complètement étrangers à la foi du peuple d'Israël. Et pourtant, ils sont venus, ils ont été guidés par les étoiles, puisqu'ils étaient très attirés par tout ce qui est l'astrologie. Et j'ai vu un titre dans un commentaire qui disait ceci au sujet des mages. « Un nouveau sauveur est né pour d'étranges étrangers ». C'est ce titre qui m'a frappé et qui m'a fait dire que là, à partir de là, c'était clair, le salut est vraiment pour tous. Voilà, ça c'est aussi un message de Noël. Alors, petite précision, là aussi, je ne veux pas vous décevoir, mais c'est vrai que je le savais, mais j'avais un peu... Alors, on fait toujours les trois mages, on connaît trois noms de mages, et on dit les rois mages. Vous ne trouverez pas dans la Bible, il est question que de mages, il n'y a pas de nombre, et il n'est pas parlé de rois. Donc ça, c'est la tradition, je ne sais plus en quelle année, qui a été rajoutée. Ce n'était pas des rois. Hein. C'était... Et en plus, alors on parle de trois, parce qu'on parle de trois cadeaux dans la Bible, mais... C'est pas important, c'est pas grave. Mais bon, si vous voulez montrer que vous savez des choses, ça sera le moment. Parce que moi, j'avais écrit « Roi mage » sur ma feuille. Après, j'ai rayé, je suis l'habitude. Donc, aussi, je me suis dit, en voyant toutes ces décorations, je ne peux m'empêcher de lire, enfin, de penser aux commentaires que Jésus a fait. Attends, j'ai sauté une page, là, voilà. Pardon, je m'excuse, j'ai zappé une page, là. Oui, voilà. Les déclarations de Jésus au sujet de la lumière. Je vais vous citer quelques textes très rapidement. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ça, c'est dans Jean. Toujours dans Jean 9, 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jean chapitre 12, verset 46. Il y en a toute une liste, je vais m'arrêter à celui-là. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Toutes ces lumières m'ont fait penser à ça, finalement, aussi. Alors, on peut peut-être s'énerver pour l'électricité, mais il y a autre chose derrière aussi pour nous. Il peut y avoir d'autres symboles. Donc, la lumière est un symbole de vie qui vient d'un créateur qui prend soin de la création et de nous. Nous avons besoin de la lumière, des relations d'amour avec le créateur, c'est-à-dire Dieu, pour grandir spirituellement et nous accompagner jour après jour. Nous avons vraiment besoin de cette lumière. La lumière, nous le savons, est responsable de toute vie, de la production de l'air que nous respirons, des cycles de nos océans, des champs magnétiques, surtout de notre planète, de la gravité et de la chaleur de notre climat. Donc, encore un message, on peut trouver encore ce message de Noël en attendant, voilà encore le message, en attendant cette promesse faite dans Apocalypse qui nous dit ceci à nous, ses enfants. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière pour que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. C'est une belle promesse, il y aura la lumière permanente et là, cette fois-ci, elle sera avec nous en permanence. C'est vrai que Noël aussi est peut-être une période difficile pour certaines personnes. Donc, je pense à ceux qui, justement, comme Marc a perdu sa maman, et ceux qui ont perdu un être cher ou qui se retrouvent seuls à Noël. Ça peut être aussi, un moment vide pour la perte d'un conjoint, d'un enfant, ou ceux qui sont isolés de leur famille. Et j'ai pensé, je l'avais écrit avant que cette vague de suppression d'emploi et de perte d'emploi, comme par hasard juste avant Noël, comme cadeau, il y en a en ce moment qui ont leur perte d'emploi. On peut penser aussi des pays en guerre, les chrétiens persécutés qui ne peuvent même pas fêter Noël, qui sont obligés de se cacher, qui ne peuvent rien faire de lumineux, pas mettre de lumière. Et je me dis, pensons vraiment à prier pendant cette période, nous devons prier tout le temps. Mais pensons à prier particulièrement pendant cette période pour toutes ces personnes aussi. Et là, c'est pareil, je vais vous lire un commentaire que j'ai trouvé. Le titre, c'était « Passez-vous ce Noël en solitaire ?» Alors, c'était quelques conseils, je ne sais pas si ce que ça vaut. Enfin, moi, je les ai trouvés intéressants. « Si vous êtes seul à Noël, ce qui était autrefois source de joie peut renforcer votre sentiment de tristesse et d'abandon. » Il n'y a pas de recette miracle. Retrouvez ce que vous avez perdu, demande du temps et le soutien de la grâce de Dieu. Mais voici quelques idées pour vous aider. N'ayez pas d'a priori, refusez de croire que tout le monde passe un Noël parfait pendant que vous souffrez. En fait, tout le monde subit les exigences et les pressions énormes de l'événement. Et c'est pire quand le cœur va mal. Si vous vous sentez seul, voici une prière pour vous. Seigneur, tu connais ma souffrance, ta parole dit que tu es proche des cœurs brisés. Fais-moi sentir ta présence, deviens plus réelle pour moi que l'agitation extérieure et le vide intérieur. Aide-moi à me rapprocher de toi et faire de ce Noël un événement inoubliable. Il y avait ce verset de Psaume 34 qui disait « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Donc, nous devons penser et être attentifs dans cette période de Noël, déjà dans l'Église, auprès de nos frères et sœurs, et penser à nos voisins et nos amis, tous ceux qui ce jour-là vont se sentir seuls, et au lieu d'être un jour de joie, souvent devient un jour de tristesse. Donc nous devons penser et être prêts aussi à faire ces gestes d'amour et les entourer dans cette période. N'oublions pas cette parole de Jésus dans Matthieu 5, verset 16, qui nous dit ceci, « Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » je vais quand même le relire, « que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Par contre, je ne peux pas aussi penser, puisqu'on parle de ceux qui vivent Noël différemment, de ce qui s'est passé aussi à cette période de Noël à l'époque. Je ne peux pas passer sous silence de ce qui s'est passé quand Jésus est né. Et nous voyons ça dans Matthieu, les versets 13 à 18. Voici ce qui nous est dit. « Lorsqu'ils furent partis, donc il parle des mages, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira d'Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. C'est vrai que ça, quand on fête Noël, on oublie vraiment ce qui s'est passé. Et là, je me suis dit qu'on se rend compte qu'il venait de se passer vraiment un événement capital pour chacun. Parce que lui, Satan, il avait bien compris ce qui se passait là. Parce que quand il a voulu tout de suite éliminer Jésus, il a voulu que cette naissance soit annulée pour ne pas changer la face du monde. Et c'est en se servant malheureusement de la colère d'Hérode qu'il a fait commettre ce massacre. Donc c'est une triste date pour les habitants de cette région, effectivement. Et voilà Joseph et Marie avec Jésus, devenus une famille de migrants pour préserver la vie de Jésus. Et une fois de plus, nous le voyons, l'Égypte devient une terre d'accueil dans leur fuite et dans l'histoire d'Israël. Donc, je me disais qu'en ce temps de Noël, pensons aussi, effectivement, comme je l'ai dit, dans la prière aussi à toutes ces personnes qui sont en ce moment déplacées, qui sont obligées de fuir leur pays. Alors, il y a l'aspect fête, mais n'oublions pas ce côté-là aussi dans nos prières. Et pour résumer un petit peu ce message, je dirais que pour moi, en tout cas, Noël est vraiment une fête. C'est une fête pour l'humanité, même dans ces traditions qui quelquefois peuvent nous sembler, voilà. Mais nous pouvons aussi voir le message de Noël dans toutes ces traditions, qui ne sont pas mauvaises forcément. Je me suis dit aussi que j'étais impressionné de la façon dont le christianisme a changé justement, a fait évoluer toutes ces traditions qui n'avaient rien à voir, et avec la vitesse et tout ce changement qu'il y a eu. Donc je me dis, il s'est vraiment passé quelque chose. Et quand j'ai vu le monde qui avait dans le marché de Noël, je l'ai partagé à une sœur. Là, on était en famille, le marché de Noël vers Colmar. On en a fait, je ne sais pas combien, je ne peux pas vous dire, parce que j'ai une cousine qui court dans tous les sens. Bon. Et quand je voyais ce monde, chaque fois, j'ai dit, mais il s'est quand même passé quelque chose. Pourquoi ils viennent tous à ces marchés de Noël? Après, j'ai manqué de foi. J'ai dit, j'ai prié pour qu'il y en ait au moins la moitié qui croit. J'aurais dû demander à la totalité, je sais. C'est ce que j'ai dit. Ah, sœur, j'ai prié pour la moitié, mais c'est vrai en plus. Donc, pour revenir un petit peu sur ces traditions, alors le sapin, bon, ben, beaucoup y voient le bois de la croix, hein, il représente le bois, cette vie éternelle et la couronne d'épines, je pense que ça ne me paraît pas mauvais. Les lumières, je l'ai dit, Jésus, je suis la lumière, et ça représente cette gloire, la gloire de Dieu et la gloire de Jésus à venir. Les cadeaux, bon, ben, bien sûr, on les attend tous, hein, mais le plus beau cadeau, bien sûr, nous l'avons tous compris, c'est Jésus qui a payé le prix pour nous, et Dieu nous a fait ce cadeau de nous envoyer son Fils. Et ça, les mages l'avaient bien compris, qu'ils venaient voir le roi des rois. Mais je l'ai dit, il y a aussi cet exil, l'exil de Jésus et sa famille, et le massacre de nouveau-nés garçons qui nous rappellent l'existence, que Satan est toujours bien présent, et Satan fait tout pour que Jésus ne revienne pas. Il fait tout pour retarder les choses. Donc, il y a toujours de la souffrance ici-bas sur Terre, et nous devons vraiment prier pour tout ce que nous entendons dans l'actualité actuellement, parce qu'on peut dire que ça bouge. Et comme je le fais d'habitude, j'aime bien terminer avec une citation de Mère Teresa, qui nous dit ceci, « C'est Noël chaque fois que vous souriez à votre frère et lui tendez la main. Chaque fois que vous vous taisez pour écouter quelqu'un. Il faut le faire des fois, de savoir se taire. Chaque fois que vous reconnaissez avec humilité vos limites et votre faiblesse. C'est Noël chaque fois que vous permettez à Dieu d'aimer les autres à travers vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeuses ou moins d'après les situations, mais voilà, dans la présence de Dieu. Amen.